France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon. C'est
hyper frais, ça fait du bien.
À la découverte de la chorba.
Ah ouais. Je l'avais découvert là, mais c'est bien. Avec les doigts, je trouve ça meilleur. Parce que je dis à mes enfants.
On va cuisiner la charchoura de biskra.
Elle est relevée, la viande, elle fond.
La cuisine algérienne est d'une immense diversité. C'est vraiment une cuisine riche, qui constitue un patrimoine pour le pays, et pourtant si peu mise en avant à l'international.
En Algérie, les femmes disent « Aynek mizanek », ça veut dire « ton œil, c'est ta balance ».
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster « Et si la cuisine algérienne se faisait enfin une place au soleil en France ?» Longtemps ignorée, les recettes d'Alger, d'Oran, de Tizi Ouzou, de Constantine sortent enfin des foyers et commencent à s'exposer au grand jour grâce à une nouvelle génération d'entrepreneuses et de cuisinières qui brandissent enfin leurs saveurs d'enfance à Paris et en région. Anan et Anissa Abdelli, bonjour.
Bonjour.
Anissa, vous êtes la maman. Anan, vous êtes sa fille. Vous êtes française d'origine algérienne et installée en France depuis les années 80. Vous avez fondé ensemble en 2020. On peut dire que vous êtes un peu les pionnières de ce mouvement qu'on va explorer. Vous avez fondé donc le restaurant traiteur Mama Nissa. Vous nous en rappelez l'adresse ?
14 rue Mandar, à Paris, dans le 2e arrondissement.
C'est ça. Et vous venez de signer un superbe livre chez Mango Éditions, Goût d'Algérie. Je le brandis sur ce plateau. Goût d'Algérie, recettes et rencontres, avec la collaboration d'Alice Princet. Nous sommes également ravis d'accueillir un autre duo de femmes à la tête d'un autre lieu emblématique dédié à la cuisine algérienne, qui rencontre d'ailleurs un vif succès dans le 9e arrondissement de Paris, 43 rue Lafitte. Majouja, fondée en 2021 par Katia Barak, bonjour.
Bonjour.
Majouja, ça veut dire ?
C'est le surnom de ma maman.
Voilà, donc c'est beaucoup le surnom de votre maman qui vous a enseigné beaucoup la cuisine algérienne. Par contre, vous n'êtes pas accompagnée de votre maman, mais de votre maman de cœur ou de cuisine, on peut dire.
C'est la maman de tout le monde.
Vous la présentez ?
Je vous présente Nora Sadki,
chef cuisinière de
Majouja. Bonjour, je me présente Nora.
Vous êtes la cuisinière de Majouja, cette cantine qui a beaucoup de succès aussi dans le 9e arrondissement. À quoi ressemble la cuisine du plus grand pays du Maghreb ? Quels sont ses signes distinctifs, ses différentes influences régionales, ses savoir-faire ? On va en discuter ensemble, et surtout Anan et Anissa d'un côté, Katia et Nora de l'autre. Vous allez nous initier à cette cuisine familiale à travers des recettes assez méconnues que vous allez nous faire goûter. Vous les avez préparés spécialement pour nous. Je vous garantis de très très belles découvertes. Moi-même, je suis dans une espèce de terra incognita et absolument passionné par tout ce que je vois et tout ce que j'ai déjà goûté. Pour nous accompagner pendant toute l'émission, nos chroniqueuses Zazie Tavitian, Céline Maguet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi, je vais vous parler d'un élément central sur les tables algériennes, le pain. Et
oui.
Et pour ça, j'ai interviewé et cuisiné avec une panophile invétérée, Farah Kéram.
Absolument passionnant, le sujet du pain en Algérie. Céline ?
De mon côté, on va partir en Algérie pour parler un peu de l'héritage colonial viticole et on retournera ensuite dans le Languedoc.
Quel est votre lien à la cuisine algérienne ? Vous avez des recettes ou des souvenirs à nous faire partager à la maison ? Eh bien, on attend vos réactions en direct sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com ou sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous nos contenus, les recettes de nos invités, les podcasts, les infos pratiques de notre émission, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
L'Algérie est une immense nation nichée entre la mer méditerranéenne et le désert du Sahara. Et c'est une terre encore si secrète. Souvent méconnue, sa cuisine est restée trop longtemps dans l'ombre de ses voisines marocaines et tunisiennes. Même si le couscous reste le véritable emblème national, la cuisine algérienne est une perle cachée du Maghreb qui mérite d'être découverte. Ces quelques lignes écrites par Alice Princet dans l'avant-propos de votre livre « Goût d'Algérie » chez Mango Éditions mettent en lumière un paradoxe. Évidemment, la France et l'Algérie ont entretenu des relations historiques très fortes, intimes, passionnelles, parfois on le sait conflictuelles. Chaque Français connaît de près ou de loin quelqu'un qui a des relations fortes avec l'Algérie. Et pourtant, cette cuisine, la cuisine d'Algérie, à l'exception évidemment du fameux couscous, qui est l'un des plats préférés des Français, est restée très longtemps invisible, silencieuse. Comment l'expliquez-vous, Anan ?
Bonjour. Alors tout d'abord, pour moi, il y a trois raisons pour lesquelles la cuisine algérienne est si peu connue en France. La première est liée à l'absence de tourisme. Il y a très peu de tourisme en Algérie, on le sait. C'est un pays qui a été marqué par une guerre civile pendant les années, la décennie noire. Ce qui a fait que le pays n'a pas pu développer le tourisme, contrairement à ses voisins, le Maroc et la Tunisie. Donc il n'y a pas eu d'échange. Par ailleurs, et c'est la deuxième raison, la cuisine algérienne, c'est beaucoup une cuisine de maman. Une cuisine de femme. Souvent, vous avez dans la street food des plats comme les brochettes, les kebabs qu'on peut trouver, les brochettes, la galanteta, etc., qui sont confiés à des hommes. Et la cuisine traditionnelle, c'est une cuisine de maman. Et c'est une cuisine, du coup, qu'on mange à la maison et qu'on n'a pas...
C'est la cuisine du foyer, la cuisine de la sphère privée.
Exactement. Et donc, on n'a pas jugé nécessaire ou utile de l'exporter à l'extérieur de la maison. D'ailleurs, force est de constater aujourd'hui que nous sommes quatre femmes autour de la table pour parler de cette cuisine.
Bonne nouvelle. Et on a deux chroniqueuses en plus, je me sens un peu en minorité, mais bon,
ça arrive.
C'est le jeu, et oui, ça fait du bien même.
C'est ça, et puis l'Algérie, effectivement, est un pays qui a une histoire compliquée, même si en France, la plus grande diaspora, c'est la diaspora algérienne. Il y a des liens de mémoire, parfois certains traumas aussi, qui ont fait que, il n'y a pas de restaurant algérien, ou en tout cas, quand il y en a, et on le constate, lorsque j'avais fait mon étude de marché avant de créer le restaurant Mamanissa, je me demandais s'il y avait de la place encore pour un restaurant algérien, en me disant, il y a tellement d'Algériens en France. Eh bien, j'ai constaté que, un, il n'y en avait pas beaucoup, et deux, lorsqu'il y a des restaurants tenus par des Algériens, ils ne s'appellent pas restaurants algériens. On n'affiche pas Algérie sur la devanture.
Ils sont souvent cachés par ce que l'on pourrait appeler des litotes. Le Touareg, le Berbère, le Kabyle. Mais cuisine algérienne ou Algérie, on avait un peu de mal à l'écrire sur la devanture d'un restaurant.
Tout à fait. Et ça, j'en avais discuté avec Benjamin Stora, qui fait partie des personnalités interviewées dans le livre que nous avons écrit. Et lui pense qu'il y a une sorte de complexe d'Algériens lié à l'histoire, qui va faire qu'on ne va pas afficher Algérie parce qu'on a peur des clichés ou en tout cas on a peur de ce que ça peut susciter comme réaction.
Katia Barek, justement, vous avez fondé Majouja, rue Lafitte, dans le 9e arrondissement. Je m'y suis encore régalé la semaine dernière. Vous avez écrit ou répondu à une interview en disant « J'avais un peu honte de cette cuisine qui sentait fort les épices ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez refoulé ? Cacher cette cuisine algérienne, cette cuisine de vos aïeux, de vos racines.
Vous êtes très bien renseigné. Effectivement, il y a un petit côté, comme vient de le dire Hanan, il y avait un complexe. Je pense qu'on a tous en nous, en tant que parents d'immigrés algériens, parce que l'Algérie, encore une fois, a une grande histoire, avec un grand H, avec la France. Et c'est vrai que moi, petite, ma mère, quand elle me mettait une part de kisra, donc la fameuse galette berbère, dans mon cartable, je ne la montrais pas trop. J'avais plutôt envie d'avoir des gâteaux pré-emballés que mes petits camarades avaient.
Vous aviez peur des colibets ? Peur des différences ?
Oui. Il y avait un petit peu ce côté où ça a amené une différenciation entre moi et il y avait les autres et il y avait moi. Donc aujourd'hui, de l'amener dans le 9e, c'est le temps a fait son effet, quoi.
C'est un sacré pas en avant. Ouais. D'ailleurs, dans votre livre, parce que votre livre « Goût d'Algérie », Hanan et Anissa Abdelli chez Mango Édition, c'est beaucoup plus qu'un livre de recettes. Je me suis vraiment régalé à sa lecture. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'histoire. Et il y a également, chose importante, des entretiens. Vous avez évoqué effectivement un entretien avec Benjamin Stora, mais il y a aussi la cinéaste Sofia Djama, il y a le journaliste Rachid Arab et pas mal d'autres personnalités qui ont des racines algériennes. Benjamin Stora, c'est évidemment l'éminent historien spécialiste de l'Algérie. Et il avance une autre hypothèse sur cette invisibilité de la cuisine algérienne en France. Et là, je me tourne vers Nora, la cuisinière de Majouja. Il explique que la cuisine algérienne n'est plus du tout en conformité avec la mondialisation où tout va trop vite parce que c'est une cuisine de femmes et c'est une cuisine qui prend du temps. Le temps des courses, le temps de la préparation, le temps des mijotages.
Exactement.
La cuisine algérienne, elle est finalement... c'est une, on va dire une slow food par rapport à notre monde où tout va vite.
Exactement, notre cuisine ça résume dans le temps, c'est ce que j'ai beau à dire tout le temps. Ils vont dire un couscous ça se prépare
bon, en une heure. Mais non, c'est le couscous, ça ne se prépare pas en une heure. Il faut combien de fois pour l'évaporer, pour dégrainer les grains, grain par grain. Et surtout, veiller à ce que les grains du couscous prennent les saveurs de la sauce qui est en bas. Et j'ai toujours mon mot à dire, quand je dis tout le temps à Katia, à nos clients, d'ailleurs, vous voyez le petit cadre qui est dans le resto, je l'appelle le cadre de la Mama Nora, parce que tout le monde me voit là-bas. C'est une cuisine, en fait, de nos ancêtres, de nos grands-mères. Et c'est un héritage qui nous a été légué par nos ancêtres, nos mères, souterrainement, sans aucun testament, sans aucune fiche technique. D'ailleurs, je suis très, très contente que je vois ce genre de livre-là apparaître. Ça marque la touche de la cuisine algérienne. On sort de cette ombre dans laquelle on a été. Et du coup, il est grand temps, je pense, que donner de la lumière sur cette cuisine, c'est grâce à cette force féminine. On se soude les coudes, les bras dans les bras, pour porter à haut niveau cette cuisine.
Et une nouvelle génération, on va le voir, d'adresses, effectivement, mettent en avant désormais la cuisine algérienne. C'est pas seulement un phénomène parisien, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'un peu partout, à Paris, en Île-de-France, en banlieue parisienne, mais également à Marseille, dans plein d'autres villes de France, apparaissent une nouvelle génération de cantines algériennes. Algériennes qui assument évidemment le mot Algérie sur leur vitrine.
Avec un grand A.
Il y a Majouja, vous deux. Il y a Mamanissa, évidemment, on parle de deux adresses parisiennes. Mais il y a également, on en a repéré à Marseille, au Kremlin, Bicêtre. C'est un vrai mouvement de fond. Hein.
Tout à fait.
Anissa.
Exactement. Donc, moi, je suis ravie que cette cuisine commence à prendre sa place dans la société en France ou ailleurs, hein, dans plusieurs pays. Sauf que la cuisine algérienne, comme elle avait bien évoqué Nora et Anan et Madouja, enfin, je ne connais
Katia.
Pas votre prénom.
Très bien, la petite Madouja.
Voilà. Donc, je ne connais pas votre prénom. Donc, c'est une cuisine aussi de transmission. Et ça, qui a fait le point où cette cuisine n'a pas pu avoir cette évolution, cette découverte. Et la cuisine algérienne, le pourquoi, je complète ce que Anan vous a expliqué au départ.
Vous êtes sa maman, hein, Anissa,
voilà. Donc la cuisine algérienne, ça se transmet de mère en fille, de grand-mère en petite fille.
Mm-hmm.
Et ça, c'est important. Cette cuisine est restée donc enclavée entre les familles. Maintenant, actuellement, la nouvelle génération qui a repris ce flambeau, donc ça a fait un écho.
Car c'est
moi, tout à l'heure, vous savez, j'ai pris un taxi, le chauffeur me dit « Ah bon, il y a une cuisine algérienne ?» Ben oui, j'ai dit « Il y a deux ». Il me dit « Ah bon ? Et c'est quoi le nom ?» J'ai donné les deux restaurants qu'on connaît à Paris. Il me dit « Sincèrement, je ne savais pas, vous voyez ?» Parce que ça n'apparaissait pas avant, personne n'en parlait, à part le pizza, etc. La transmission, ça a toujours été pourquoi ? Avant, nos grands-mères disaient à nos mamans « Il faut toujours... » former vos filles, leur apprendre la cuisine. Parce que ce qu'on donne, ça perd, mais ce qu'on apprend, ça reste. Et si tu veux, la mère à sa fille, hein, si tu veux que la cuisine reste dans la famille, bien sûr, il faut apprendre à tes filles. Moi, j'ai appris ça. Et mes petites filles, pour elles que j'ai fait ce livre, en fait. J'ai écrit le livre plus pour mes petites filles, excusez-moi, mais pour toute la génération. Et ma petite fille, 12 ans, commence à faire les gâteaux.
On va voir que la cuisine algérienne est justement une affaire de femmes, une affaire de transmission de génération en génération. C'est Paul Laporte qui réalise l'émission avec Mathias Alléon à la technique, Fabrice Rivaud et Tiana Sals pour la préparation. On explore les marmites algériennes à travers des recettes de famille. Juste après, Le Phare, bah tiens, c'est le titre d'un chanteur français bien connu, l'une de nos grandes stars de la chanson française, née à Oran. En 1956, qui a grandi ses premières années, Étienne Daho, évidemment. Bon voyage et bon appétit sur France Inter.
C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur, ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure, un délicieux baiser, une morsure, un pacte secret. Ce sont de merveilleux moments où l'on sait ces instants où nos yeux. Flèches d'acier comme de fleurs et blancs se sont croisées avant d'échanger. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu. Comme deux invisibles fiançailles, que trahissent un geste, un détail, un regard qui couronne et qui médaille, fait battre les sangs. Quelle est la part de chance du divin et la part du hasard de l'instinct qui hisse les voiles de nos destins, m'impacte en secret. C'est comme un phare dans le noir, c'est comme un désir impérieux, c'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu.
Aujourd'hui, on découvre les saveurs d'un pays ami, d'un pays intime, l'Algérie. Et pour explorer ce répertoire de Méditerranée, nous sommes avec quatre femmes. On expliquait à l'instant que la cuisine algérienne était une affaire de transmission, de génération en génération. Et il y a Hanan et Anissa, un objet à mes côtés que j'ose à peine toucher, tellement il est fragile. Oui, on sent qu'il a été usé
aussi vieux que moi.
Au fil des années. Racontez-nous de quoi il s'agit, Anissa.
Bon, l'histoire du lit fait partie de moi, en fait. Pourquoi ? C'est rapide. Hein. Donc, moi, je me suis mariée jeune à 23 ans. Juste après mes études, la licence, mariage. Là-bas, c'est pas...
On est à la fin des années 70 ?
Voilà, les années 70.
En Algérie ?
Donc, mon mari au cadre. On a été vers l'est d'Algérie.
Mm-hmm.
Moi, je ne savais pas cuisiner à l'époque. Je savais faire les plats, galettes, les beignets de ma grand-mère paternelle, la rechta de ma grand-mère maternelle, mais pas une vraie cuisine. Mm-hmm. Et mon mari, un bon mangeur. Donc, le jour de notre mariage, son cousin nous a offert ce livre. Je l'ai pris avec moi à 300 km d'Alger et j'ai commencé à cuisiner la journée où je ne travaillais pas, enseignante. Et j'ai utilisé ce livre. Donc, à chaque fois que mon mari goûtait les plats, il était content. Donc, il y a eu toujours les invités sans m'informer le soir, ses réunions à la maison. Et à chaque fois, ses amis, ses collègues, son personnel me félicitaient.
Mm-hmm.
Et ça m'a donné le goût de cuisiner.
C'est un livre...
Et donc, c'est devenu mon sac à main.
C'est ça.
Voilà. Et c'est devenu J'ai surtout... appris à cuisiner grâce à ce livre.
Et c'est devenu surtout un sacré patrimoine familial parce que vous l'avez transmis à votre fille et je crois que c'est ce qui a généré chez vous, Hanan, ouais. Un véritable déclic. Faut préciser pour ceux qui n'ont pas l'image, ils sont nombreux. Hein,
oui, oui, non.
On est à la radio. C'est un livre totalement, il n'y a plus de tranches.
Hein.
Il n'y a plus de couverture.
Oui, oui, tu lisais beaucoup. Hein.
Il est taché. Pages sont jaunies.
Ouais.
Il a quand même plus de 60 ans.
Oui, je l'ai prêté à ma fille aînée.
Avec une maquette des années 70.
C'est ça. Ouais,
c'est
des
ça.
Photos très, très saturées de couleurs.
Voilà. Et donc, Hanan a pris ce livre.
Et vous, c'est désormais le vôtre, en fait. Vous voulez t'approprier, Hanan?
Oui, même si parfois je le laisse quand même chez maman parce qu'on est quatre filles et pour mes sœurs, il peut servir encore. Mais effectivement, maman me l'a légué le jour où elle a voulu... que j'apprenne à cuisiner les plats traditionnels pour mes enfants, parce que le lien de mes enfants avec l'Algérie, c'est mamie, c'est les plats de mamie. C'est surtout la cuisine qui est restée dans notre famille.
Parce que vos enfants, ils ont un papa breton.
Ils ont un papa breton.
Mais vous les éduquez aux saveurs de Méditerranée et d'Algérie.
Les deux.
C'est ça, les deux.
Exactement. Et pour eux, l'Algérie, c'est les plats de mamie. Et ils réclament à mamie des plats traditionnels. Et maman me dit un jour, je ne serai pas toujours là, il faut que tu apprennes à les faire. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné ce livre.
Et c'est ce livre qui vous a donné envie de vous reconvertir, car il faut préciser, Hanan Abdelli, que vous êtes allé assez loin dans les études en France,
oui.
Que vous avez occupé un poste de cadre supérieur très important,
oui.
Et que vous avez décidé à un moment donné, peut-être à la faveur de la découverte de ce livre, et aussi peut-être aussi du confinement, de changer de vie et de mettre en avant la cuisine algérienne, les saveurs de votre enfance dans... l'adresse Mamanissa que vous avez ouverte.
Exactement.
Dans le deuxième arrondissement de Paris.
Exactement. En feuilletant ce livre, j'ai découvert toute la richesse de la cuisine algérienne et je me suis dit c'est quand même dommage que tous ces plats soient oubliés, que tous ces plats soient méconnus en France et restent confinés à des cellules familiales. on va le faire découvrir. Et c'est comme ça que j'ai enclenché ce projet. Je suis allée à l'école Ferrandi pour apprendre la restauration parce que j'avais des connaissances en gestion d'entreprise, effectivement, mais pas en restauration. Mm-hmm. Et c'est comme ça que le projet Mamanissa est né.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, car il est vrai que le peu que l'on connaît de la cuisine algérienne, c'est souvent des clichés d'une cuisine considérée comme très riche, très opulente, assez peu digeste, très grasse. Oui. Et vous, l'ambition de votre cantine, si j'ose dire, Mamanissa, c'est de montrer que la cuisine algérienne est une authentique diète méditerranéenne, avec beaucoup de recettes pauvres et surtout très équilibrées, une place importante consacrée au végétal. Et cette recette qu'il y a dans nos gobelets et qui circule, je vois que Zazie a déjà la bouche pleine.
Très bon.
Qu'est-ce que vous mangez alors? Tiens, petit test à l'aveugle, Zazie. Qu'est-ce que vous êtes en train de déguster? C'est une soupe,
soupe très fraîche avec des pois chiches, plein d'herbes, des cébettes, un peu de tomates. Ouais. Donc c'est effectivement très frais, hyper goûtu, avec un petit bouillon aussi.
Une petite trame épicée. Oh là, c'est bon ça. Ouais. De quoi s'agit-il?
Ça s'appelle la doubara.
La doubara.
Doubara.
C'est
la débrouille. Le sens du mot, c'est la débrouille. Mm-hmm. Et son histoire, c'est pas un grand cuisinier. Ça, c'est l'Est algérien, le Sud-Est. Donc un soir, un monsieur amène ses copains à la maison. La femme n'avait rien. Elle avait le frigidaire, des pois chiches, un peu de coriandre. C'est comme le réfrigérateur algérien, un peu de tomates, etc. Elle regarde tout ça, elle dit « Bon, je vais me débrouiller. » Elle fait ce plat, elle le présente à ses invités. Donc, ils ont aimé. Ils ont dit « Mais comment s'appelle ce plat ?» Elle a dit « Il s'appelle la débrouille. »
La doubara.
Donc, et c'est la doubara, je me suis débrouillée. Et c'est resté le nom de ce plat. Et c'est connu à travers tout l'Est algérien, Sud-Est.
C'est une recette... On peut parler de recette du pauvre, avec des légumineuses.
C'est une recette de pauvre qui a pris une grande importance actuellement, même dans les restaurants en Algérie, le Sud-Est, parce que mon mari, il est originaire de cette région. Et bien, elle y est dans les restaurants et c'est trop demandé maintenant. Ça devient... Tout est cuisine ancienne. Maintenant, ça a pris un réveil. Et puis, ça a donné... cette importance.
Après
l'histoire du gras, etc., c'est vrai que le problème de la cuisine algérienne était ce problème-là. Trop sucré, trop gras, trop lourd, épicé.
Vous distinguez dans votre livre deux répertoires. Il y a une cuisine de fête qui est plutôt opulente. C'est celle que l'on offre en général. Et en plus, Dieu sait si on est généreux et hospitalier en Algérie et dans tous les pays du Maghreb. Donc ça, c'est la cuisine qu'on fait découvrir à l'étranger. Exactement. On lui en met en quelque sorte plein la vue et le palais.
C'est ça.
Avec beaucoup de viande, notamment. Ouais. Mais la cuisine intime, celle qui se fait à l'abri des regards, elle est plutôt frugale. Elle est plutôt méditerranéenne, très végétale, c'est
ça ? Exactement. Ouais, exactement. C'est ça. En général, quand les gens découvrent la cuisine algérienne, qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'ils sont invités chez des Algériens. Et quand un Algérien invite des gens, évidemment, il va les honorer avec des plats de fête. Et les plats de fête, comme dans toutes les traditions, comme dans toutes les cultures, sont des plats qui sont riches, qui débordent. Il y a de la viande. Voilà, c'est comme, je veux dire, à Noël en France, où quand on réunit des amis autour d'une tartiflette, oui, on ne va pas la manger tous les jours.
Voilà, et c'est comme si on résumait en quelque sorte la cuisine française à la tartiflette.
Exactement.
Alors qu'il y a par ailleurs aussi beaucoup de recettes très frugales.
À l'abri des regards, les Algériens ne mangent pas de viande tous les jours. C'est une cuisine à base de céréales, de légumineuses, de légumes. Et c'est cette cuisine-là aussi qu'on voulait faire découvrir parce qu'elle est hyper saine et très appréciée par nos clients.
Comme le montre cette délicieuse doubara, une soupe algérienne, à ne pas confondre avec la chorba, la harira, ça n'a rien à voir.
Ce sont d'autres soupes.
Et après, c'est vrai que la cuisine, on l'a un peu évoluée en fonction de la société. Parce que moi, Anane, quand elle m'a annoncé la nouvelle pour le restaurant, je travaillais, j'ai dit, écoute ma fille, moi, si tu veux que je t'aide, moi, je ne peux pas passer la cuisine familiale. Et la cuisine professionnelle, ce n'est pas la même chose. Moi, il me faut une formation par rapport à la technicité et comment adapter la cuisine algérienne ancienne au temps actuel. Et là, j'ai fait une formation Ferrandi quand même.
Voilà, donc c'est quand même
la formation Ferrandi que je remercie aujourd'hui, si on est en plus écouté, qui m'ont aidé à la fiche technique, à comment évoluer la cuisine algérienne.
Katia Barek, il y a quand même... des similarités entre vos projets, puisque vous aussi, vous êtes allé très loin dans les études en France. Vous avez occupé professionnellement des positions importantes. Et vous aussi, vous avez fait en quelque sorte votre cooking out.
C'est ça, c'est exactement un Algerian cooking out.
Oui, c'est ça. Et Majouja, on peut dire que vous avez une très belle formule pour définir la démarche gastronomique de votre cantine, de votre table ?
Tradi trendy.
Tradi trendy, ça, ça me plaît.
Qui résume finalement... Et c'est intéressant d'entendre tout ce qui se disait avant, parce que finalement, il y a plusieurs chemins pour arriver à la cuisine, il y a plusieurs racines. Moi, de mon côté, j'ai toujours été en Algérie depuis petite. Je suis née en France. Je suis une vraie bobo parisienne du 18e dans lequel j'habite encore. Et en même temps, je suis une vraie fille du bled. Quand je parle la langue locale avec mes tantes, la banque dans laquelle j'ai travaillé longtemps est bien loin. Et pourtant, voilà, les deux m'animent depuis toujours. Et c'est pour ça que je dis tradi trendy, parce que j'ai un pied ici et un pied là-bas. Et le but, en faisant cette reconversion... qui n'a pas été un déclic pour moi. Je savais depuis longtemps que j'avais envie de remettre mes racines au devant de la scène. Mon papa, paix à son âme, était dans la restauration. Il a été cuisinier, plongeur, etc. Ma mère a toujours cuisiné à la maison. Donc faire sortir cette cuisine-là des foyers, après une longue carrière, effectivement, dans un groupe bancaire, c'était une façon de boucler la boucle et de rendre hommage un peu à mon père aussi. Voilà, donc tradi trendy, aujourd'hui c'est dans le 9e et la cuisine algérienne, elle y est bien installée.
Je suis venu faire un tour chez vous il y a quelques jours. Ce qu'il y a d'assez incroyable, et ça doit être la même chose chez Mamanissa, c'est que vous avez finalement un public, une clientèle très bigarrée, entre les Français d'origine algérienne qui veulent renouer avec leur saveur d'enfance, leur Madeleine de Proust, et puis des cravatés, des cols blancs qui n'ont pas grand-chose à voir entre guillemets avec l'Algérie et qui viennent par pure curiosité parce qu'ils adhèrent à une cuisine qu'ils trouvent à la fois bonne, colorée, épicée, saine, diététique.
Ils viennent et surtout ils se parlent, ils échangent. Mm-hmm. Et ça, c'était hyper important pour moi parce que le but en amenant les casseroles, les marmites dans le 9e arrondissement, c'était aussi de rapprocher des personnes qui, en temps normal, ne se seraient pas forcément croisées. Et oui, on a une femme qui va être voilée à côté d'un col blanc qui sort d'une agence de com ou d'un groupe bancaire. Et toutes ces origines, toutes ces cultures, toutes ces religions réunies, c'est une, après mon équipe, qui m'entoure de façon très, très solide, c'est une de mes grandes fiertés aujourd'hui.
Et on peut notamment déguster chez Majouja les tikka babine. Est-ce que je prononce bien, Nora ?
Oui. Très très bien, tikka babine.
Je pensais que j'allais me faire attraper là.
Tikka babine ou tasvanine, c'est un plat très très ancestral qui vient des hauts des montagnes de Kabylie. Je le dis bien, je précise, mais j'espère que Anissa est d'accord avec moi.
Elle est pareil.
C'est un plat vraiment qui vient des hauts montagnes de la Kabylie. C'est vrai que c'est pas un plat Instagrammable, comme je peux dire, à l'issue, vous allez, comment je vais manger ça?
Je trouve beau.
Mais c'est un plat à laquelle j'ai vraiment tenu, bien sûr, moi et Katia, à mettre en valeur, à faire découvrir. Et c'est devenu vraiment un plat qui est très demandé par les Français, qui l'ont appelé même les petites boulettes de semoule qui éclatent de saveur dans la bouche. Donc ils l'ont bien défini.
Ben là, vous avez une très bonne définition. Petites boulettes de semoule dont les saveurs éclatent dans la bouche, c'est exactement ça. Ouais. On a affaire à des boulettes de semoule avec beaucoup d'herbes fraîches, des épices. C'est délicieux, Céline, commentaire.
On sent le cumin et les graines de fenouil qui dominent.
Alors ça, quand j'étais petite, moi, je voyais ma grand-mère qui mettait les graines de cumin dedans. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en grandissant, j'ai compris que c'était pour justement diminuer, pour qu'on ait moins le ventre gonflé et tout ça. Donc, elles étaient diététiques, elles faisaient de la science sans qu'on le sache. C'était un héritage de nos grand-mères.
Importance des épices, hein. Et notamment avec, comme vous le dites, et ça, c'est selon les préceptes de la médecine arabe traditionnelle. Les épices ont évidemment un rôle gustatif, mais aussi un rôle médicinal. Hein. Ça, c'est fondamental.
Exactement, je rejoins totalement Anissa quand on dit que notre cuisine, elle est healthy, entre guillemets. Et ça suit les légumes de saison, bien sûr. Et bien sûr, là, maintenant, avec la tendance, on trouve les légumes intersaisonniels, pas à leur moment, mais on essaie toujours d'adapter notre cuisine selon les légumes de saison. Et il n'y a pas mieux.
Et ces boulettes sont évidemment humectées d'un très bon jus. Il y a également de la viande là, mais c'est pas obligatoire. Mais
c'est
là, il y a de la viande d'agneau.
À la base, c'était végétarien. À la base, c'était végétarien.
On peut dire que tikka babine, on avait affaire là encore à un plat du pauvre.
Ah oui, bien sûr.
Semoule, herbe fraîche.
Végétarien, bien sûr.
Et c'est un plat qui s'accommode avec tous les légumes de saison. En fait, c'est pas une science exacte qu'il faut mettre tel ou tel ou tel légume. Comme elle a dit Anissa, on ouvre le frigo, ce qu'on a dans le frigo, on le met.
C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces recettes, vous nous avez fait la gentillesse et la générosité de nous les offrir, de les offrir à nos auditeurs. Elles figurent sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. On peut désormais s'essayer à la cuisine familiale d'Algérie. À la maison.
On va déguster. Sur France Inter.
Cher Zazie Tavitian, vous nous parlez d'un aliment essentiel dans la cuisine algérienne. Ce serait pas le pain par hasard ?
Eh bien, si c'est le pain, car l'Algérie est un pays où l'on mange beaucoup, beaucoup de pain, avec 110 kilos de pain consommé par an par habitant. C'est aussi un aliment qui a une place centrale à table et un rôle social et symbolique très fort. Et pour me raconter tout ça, je suis allée rencontrer Farah Kiram, qui est journaliste et autrice, notamment du livre Faire son pain, un livre très pédagogique, documenté et je trouve écrit avec beaucoup de poésie. Et j'ai d'abord demandé à Farah d'où lui venait cette passion.
J'ai vraiment grandi dans une famille où le pain était presque le lien principal entre ces deux pays, donc l'Algérie et la France. Mon père est kabyle et ma mère est d'Alger. Et mes deux parents honoraient le pain, c'était souvent l'élément central de la table. Non pas pour des raisons économiques, mais c'est vraiment parce que le pain était sublimé chez nous. On partait du pain pour ensuite le tremper dans différents plats. Il y avait toujours de la baguette tradition. Beaucoup de kesra, donc une galette fine à base de semoule de blé dur. Il y avait la galette à l'orge aussi. Khobz chrir, donc du pain à l'orge aussi, mais qui est plus dans une forme levée. Et surtout, moi, l'un de mes préférés, il y avait des crêpes feuilletées, donc des msemen, que ma mère fait entièrement à la semoule et que moi, je propose avec un peu de farine parce que c'est quand même un peu plus simple à panifier. Comme beaucoup d'immigrés de deuxième génération, j'ai passé quasiment tous mes étés en Algérie jusqu'à l'adolescence. Les pains algériens sont souvent une affaire de femme. Déjà, c'est elles qui sont détentrices de la tradition au travers des gestes. Moi, j'observe depuis toujours les femmes de ma famille faire ce pain. Ces femmes réalisent, en fait, dans leur fournil, ces pains traditionnels. À l'inverse, les boulangeries où on vend du pain blanc, donc la baguette qui est très populaire, hein, ces lieux sont tenus par des hommes.
Alors, vous l'avez entendu, les pains à base de farine de blé tendre, plutôt de l'école européenne, et ceux à base de blé dur de tradition nord-africaine, cohabitent en Algérie. En fait, la culture de ces céréales, comme beaucoup de produits agricoles, est liée à l'histoire du pays, et notamment l'histoire de sa colonisation par les Français à partir de 1830. Dans une interview très intéressante pour le magazine L'Obs, l'agronome Marc Dufumier explique comment les colons ont transformé les modèles agricoles alors existants, en augmentant certes la capacité de production, mais sans penser forcément à la durabilité, avec des modes de culture intensifs et extensifs, parfois mal adaptés à l'environnement, amenant l'épuisement des sols et aussi l'éviction des paysans modestes. L'auteur Ahmed Enni raconte lui dans son livre « L'économie de l'Algérie coloniale » comment cette culture du blé était à destination de l'exportation et non de la population locale. Aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, selon la FAO, 70% du blé consommé en Algérie est importé et ça pose vraiment la question de la souveraineté alimentaire. Alors avec Farah, nous avons réalisé une kesra, c'est cette galette de semoule.
Qui est dans nos assiettes, elle est délicieuse.
Qui est dans vos assiettes. Farah a commencé à la préparer alors que le tagine de sa grand-mère, c'est le nom du plat qui sert à faire cuire cette galette, était déjà en train de chauffer sur le feu.
Alors pour deux grandes kesra ou plusieurs petites, il faut 500 g de semoule de blé fine, si possible bio. 200 ml d'eau à température ambiante, 70-75 ml d'huile. Il faut de l'huile d'olive de très bonne qualité et 9 g de sel. C'est très économique, c'est très riche parce que ça peut se manger au petit déjeuner. C'est quelque chose qui peut accompagner un plat ou c'est quelque chose qui peut être son plat.
Là, tu as versé la semoule, tu ajoutes le sel.
Ouais. Et là vient l'un de mes moments préférés. C'est qu'on va travailler la semoule avec de l'huile d'olive. Et je vais en fait faire passer entre mes deux paumes la semoule. En fait, la semoule doit être imbibée d'huile d'olive. Et la dernière étape avant le pétrissage, c'est l'eau. J'ai pétri, j'ai formé deux boules et je les ai laissées reposer à peu près 5 minutes, pas couvertes, en mettant un filet d'huile d'olive sur le dessus. Et là, en fait, je vais leur faire prendre une forme de pâton en utilisant la paume de ma main pour étaler la pâte. Et là, l'idée, c'est vraiment de choisir l'épaisseur à votre convenance.
T'as la kesra dans la main et tu vas la mettre dans la tagine.
Exactement. Et je pique sur toute la surface. Là, c'est cuit. Donc, on va pouvoir déguster ça maintenant avec un peu de harissa fumée et un peu d'huile d'olive.
C'est très bon.
Yatek Saha. Merci beaucoup.
Alors, Sarah adore ajouter des herbes aromatiques, parfois aussi des fleurs comestibles dans la confection de ses kesras. Moi, je vous en ai fait une avec de la menthe et j'ai apporté de la harissa au citron confit que j'ai mis dans du yaourt grec pour tremper dedans. Mmh. Voilà. Alors, cette recette, elle est sur le site et pour toutes les autres, msemen, madjou, mais aussi des miches de blé ou des baguettes croquantes, je vous recommande grandement le livre de Farah Kéram, Faire son pain, dans la collection Résilience aux éditions Ilmer.
Merci et vous confirmez que le blé dur est vraiment essentiel en Algérie. D'ailleurs, on peut dire aussi effectivement qu'il y a le pain qui est l'héritage des colons français, la baguette qui reste quand même très populaire en Algérie et partout en Algérie.
Toute l'Algérie.
Toute l'Algérie. L'Algérie a longtemps été le grenier de l'Europe. Hein.
Oui.
Donc le blé occupe une place extrêmement importante. Le blé dur, on a l'orge, on a un certain nombre de céréales omniprésentes dans notre cuisine. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, nous on voit bien, pour accompagner un plat, on va mettre une kesra. Donc la kesra, c'est cette galette à base de blé.
Qu'on déguste et qui est délicieuse. Bravo Zazie.
Merci.
Ouais, bravo, c'est super bon. Et en fait, on a aussi la galette, nous chez Majouja, on a la galette farcie. Donc la kesra farcie, le
alors ça c'est vraiment, c'est dans la logique tradi-trendy de
tout
votre cuisine.
Oui.
Vous prenez une kesra et vous en faites une espèce de sandwich garni de feta, d'épinards.
Ouais,
vous n'êtes pas protectionniste. Hein.
Pas du tout, au contraire, on ouvre toutes les portes et on amène les gens à aujourd'hui venir prendre leur pause-déj, non pas avec un burger frite, mais avec une chorba frite et la galette farcie. Et ça c'est plutôt cool de voir que ça... C'est une cuisine nomade, hein, donc on l'emporte.
Et on veille vraiment que la galette soit prête devant le client. Il la voit vraiment arriver de la plaque sur la table.
Dans un instant, les réactions de nos auditeurs, elles sont nombreuses. D'autres recettes et d'autres découvertes autour de la cuisine algérienne.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكي لنا عالجنة حكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Qui a reconnu cette grande chanteuse franco-algérienne? Anissa?
Si, Souad Massi. Souad Massi.
Bah, encore faut-il le dire.
Oui, c'est Souad
Massi. Vous l'avez reconnu. Souad Massi, hein, incroyable chanteuse, qui est née à Alger, d'origine kabyle.
Oui, et elle est venue tard ici en France, pendant la décennie noire. Hein.
Et on peut la retrouver sur scène le 7 juillet prochain au festival.
Je ne sais pas si elle descend maintenant à Alger pour faire des concerts, on n'entend pas parler, mais...
En tout cas, elle a fait une grande tournée en France et elle sera au festival Jazz à Vienne le 7 juillet prochain.
Ouais.
France Inter, François-Régis Gaudry. On va déguster.
La cuisine familiale d'Algérie à l'honneur aujourd'hui. Nora Sadki, vous m'avez dit, en préparant cette émission, quand on cuisine, on chante.
Généralement, toutes les femmes algériennes, quand elles cuisinent, elles chantent, elles marmottent bien une chanson qui définit son état d'esprit à ce moment-là.
Et qu'est-ce que vous chantez alors comme chanson ?
Alors moi, j'ai ma chanson, comment dire, mon hymne que j'adore, c'est une chanson de Tayakout qui raconte, en fait, ça ressemble un petit peu à la chanson qu'on vient d'écouter de Souad Massi, Hajili, ce qui veut dire « raconte-moi
mm-hmm. ».
Et cette histoire parle d'un bracelet qui est venu des montagnes de la Kabylie, qui a été légué à sa fille.
Vous pouvez nous en donner un petit aperçu ?
Si j'ai une petite voix, oui, pourquoi pas. J'espère bien que je serai à la hauteur. Alors. يفوسي وما رثقنا غشحالي شاف حيث مغلي ثقفيلي ثوما يثعرا قميث مقلغاتي دم كثير ثقفيلي ثوما يثعرا قميث مقلغاتي دم كثير
برافو. Donc ça veut dire que chez Majouja, dans les cuisines de Majouja, quand on fait la cuisine,
toujours.
On chante. Il y a des réactions
y a
notre mail et nos réseaux sociaux, Zazie Tabitian.
Beaucoup de réactions, beaucoup de souvenirs de plats et aussi beaucoup de questions. Pourquoi n'apprendre la cuisine qu'aux petites filles ?
J'imagine ah, ça c'est une bonne question.
Peut-être qu'aujourd'hui on l'apprend aussi aux garçons.
Sinon on va être à deux doigts de prendre l'Algérie pour une société patriarcale. Et les garçons font quoi dans cette histoire ?
Là ils vont apprendre.
Ah oui, c'est bien.
À partir de maintenant ils vont apprendre.
On faisait des ateliers chez Majouja, on a reçu pas mal d'hommes qui sont venus faire des ateliers avec nous.
Et y compris des Français d'origine algérienne qui ont envie de s'y mettre.
Bien sûr. Et même des Français d'origine qui veulent vraiment découvrir cette cuisine. Comme la kassra, on a fait pas mal d'ateliers.
On a des Pieds-Noirs aussi qui sont venus, enfin qui viennent manger au restaurant, pour qui la cuisine algérienne c'est une mémoire. Qui ont des émotions très fortes. Nous, on a beaucoup de clients qui ont pleuré au restaurant. Donc ça, c'est toujours émouvant. Et,
carrément. Hier, j'étais obligée de sortir pour consoler un client qui n'avait pas retenu ses larmes en mangeant Tikkun Babin, justement.
Non, cette cuisine, elle est autant féminine. Elle est effectivement moins présentée comme une cuisine d'hommes, mais énormément d'hommes cuisinent. Et avec la génération qui arrive, je suis sûre que... Moi, j'ai un fils, je sais qu'il cuisinera quand il pourra, bien sûr.
Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous précisent que l'Algérie fait 5 fois la France en termes de superficie. Ça suppose une grande diversité climatique.
C'est ça.
Il y a la côte méditerranéenne, mais il y a également au sud un climat carrément désertique. La cuisine d'Alger n'est pas la cuisine d'Oran, c'est pas la cuisine de Kabylie, et c'est des influences très différentes, Anissa.
Oui, c'est ça. C'est ça qui fait sa richesse. On a les hauts plateaux, on a la Kabylie, on a l'Est qui... frontalier avec la Tunisie, l'Ouest avec le Maroc, le Sud avec le Mali, le Niger, etc. On a les hauts plateaux qui sont Médéa, et c'est une enclave aussi, c'est comme la Grande et la Petite Kabylie où les gens vivent enclavés, d'où il y a comme le Zvété par exemple, la Doubara, etc. C'est des plats de ces régions-là qui sont restés. Après on a Alger, c'est comme Paris.
Et oui.
Et là on a de tout et toutes les cuisines.
Ça tombe assez bien parce qu'on nous parle d'une recette qui, moi, personnellement, m'émeut particulièrement. J'ai pas de lien avec l'Algérie, mais qu'est-ce que j'aime cette recette. Je la trouve addictive. Il paraît même que c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup d'Algérois. C'est la rechta.
La rechta.
Définition
ça,
de la rechta.
Moi, la rechta,
Vous la pratiquez chez Mamanissa, vous la pratiquez chez Majouja. Hein.
Moi, la rechta, c'est... Je l'ai mangée dans le ventre de ma maman.
C'est vrai.
Ma maman, elle est algéroise, donc ça, c'est le plat phare.
Définition, Anissa.
La rechta, c'est quoi? C'est l'origine, vite fait, c'est d'origine turque. Vu que les Turcs étaient à Alger, donc ça a été transmis pour les mamans algériennes. C'est un plat à base de blé dur et de sel.
On fait des pâtes fraîches, c'est ça ?
Il n'y a pas de levure, il n'y a rien. Donc on pétrit bien. Et puis, avant, on coupait à la main. On ouvrait les mamies et les mamans, on coupait ça.
C'est parce que c'est des mini. Alors c'est plus gros que des vermicelles ?
Exactement.
Des plus petits que des tagliatelles ?
Pas trop fines, pas trop épaisses. Maintenant, il y a les appareils. On fait cuire à la vapeur. Et on fait une sauce blanche. À Alger, nous, on est plus sauce blanche, avec du poulet ou de la viande d'agneau. Après, les légumes de saison, en général, on met les navets, un peu de courgettes. En hiver, s'il n'y a pas la courgette, on met la carotte et les navets. Et puis, on sert avec un peu de cumin. Non, cannelle, pardon. Un peu
voilà,
de cannelle.
Parce que la cannelle est importante. Est-ce que vous dites d'ailleurs,
Alger,
c'est que c'est un plat qui est tout blanc et
tout
qui
blanc.
Est blanc comme Alger la blanche.
Exactement.
Parce qu'on pourrait penser que la cannelle teinterait en marron le plat. Or, c'est plutôt le bâton de cannelle qui permet de parfumer le bouillon, c'est
nous,
ça ?
Nous, toujours Bâton de cannelle, parce que les sauces blanches, la soupe blanche, la rajta, tous les dolmas, toutes les dolmas, etc., blanches, c'est avec les bâtons de cannelle pour que la sauce reste onctueuse, blanche et bien parfumée.
La rajta, oh là là, c'est un plat absolument extraordinaire. Je vous invite à le découvrir. La recette figure d'ailleurs dans votre livre Goût d'Algérie. Vous allez nous faire découvrir dans un instant une recette tout à fait extraordinaire. Mais juste avant, on fait une petite pause avec Céline Maguet.
On va déguster sur France Inter.
Céline Maguet, Algérie, ancienne terre viticole.
Merci. En effet, François Régis, et je voudrais commencer par un petit film de propagande pour se mettre dans l'ambiance.
Mais à côté de ces immenses domaines voués à des productions de base, l'Algérie devait bientôt s'apercevoir que son sol lui assurait d'autres gages de succès. Sa fertilité et les particularités du climat lui promettaient d'autres destins que ceux d'une Beauce ou d'un Languedoc. Terre vouée aux cultures industrielles du blé ou de la vigne. L'Algérie, elle, pouvait se diriger vers la qualité.
Donc là, on est en 1948. La métropole part de l'Algérie comme une terre utile, un pays de cocagne. Et ça a longtemps été le cas pour la vigne. Après la crise du phylloxéra, cet insecte qui a ravagé les vignes européennes, les Français ont misé sur l'Algérie pour assurer leur production viticole. À partir de 1880, des viticulteurs de l'Hérault, du Gard, du Tarn, de l'Aude s'y installent, encouragés par l'État français. Au nord du pays, près des côtes, ils plantent près de 125 000 hectares de vignes avec deux cépages principaux, du cinsault, un cépage productif et résistant à la sécheresse typique de Provence et du Languedoc, et du carignan, une vigne très productive, adaptée au climat chaleureux qu'on retrouvait aussi bien en Espagne que dans le sud de la France. Donc l'Algérie produit du vin, beaucoup de vin. À la veille de l'indépendance, le pays est le quatrième producteur mondial et 98% de sa production est exportée en France, où il sert de vin de coupage. Il est assemblé au vin du midi pour en augmenter le degré d'alcool.
Et après l'indépendance, Céline, que devient alors le vin algérien ?
Au lendemain de 1962, l'Algérie se retrouve avec près de 15 millions d'hectolitres de vin sur les bras. Ça fait 2 milliards de bouteilles quand même. Oui. Il n'y a pas de marché local, les Algériens de culture musulmane ne boivent pas ou peu d'alcool, et il n'y a plus de marché international, car les relations avec la France se sont rapidement gâtées. En 1967, la France suspend toutes ses importations de vin algérien. Alors d'abord, le pays se tourne vers d'autres marchés, puis limite sa production en arrachant près de la moitié des vignes. Surtout parce qu'elles occupaient des terres irrigables et fertiles qui pouvaient servir à des productions plus utiles. Alors il existe encore de la vigne en Algérie, beaucoup moins mais toujours, mais elle subit, comme toutes les autres cultures, une sécheresse persistante, avec une désertification des terres, comme sur tout le pourtour méditerranéen. D'ailleurs aujourd'hui, je vous ai apporté un vin non pas algérien mais du Languedoc, pour raconter cette aridification des terres méditerranéennes, avec côté français, un climat qui tend vers celui du Maghreb. Dans la région de Montpellier, la température moyenne estivale a pris 2,3 degrés en 30 ans, et comme l'homme, quand il fait chaud, la vigne a soif. Or, la vigne manque d'eau. Depuis octobre, dans le même coin, il a plus de 237 mm au lieu des 400 mm habituels. Enfin, habituels, c'était il y a 10 ans. Donc là, dans vos verres, vous allez trouver un vin couleur grenat. Ce vin, il vient de Restinctière, à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Et c'est un carignan, comme ce cépage planté par les colons en Algérie.
Ironie du sort.
Il est produit par Catherine Bernard, une ancienne journaliste de Libération qui s'est installée en 2005 dans la région et a observé les changements climatiques. En juin 2019, elle a eu un déclic quand elle a vu ses raisins grillés sur place. On était à la fin juin, il faisait 44 degrés à l'ombre, 56 degrés dans les vignes. Depuis, elle voit cette sécheresse dans les sols, dans les baies qui manquent de jus, mais aussi dans l'attitude des animaux. Comme ce jour où des chevreuils ont ratiboisé une de ses parcelles parce qu'il manquait d'eau. Ils ont cassé les bois de la vigne pour aller chercher la sève. Alors aujourd'hui, avec son fils Nicolas Alain qui l'a rejoint au domaine, elle organise la résistance. Ensemble, ils plantent différemment, soit beaucoup moins de pieds de vigne pour ne pas les mettre en compétition dans leur recherche d'eau. Ils plantent aussi des fruitiers et des arbres forestiers pour recréer de l'ombrage et protéger la vigne des coups de chaud. Mais aussi dans la vinification, ils s'adaptent. Nicolas et Catherine arrivent à garder de la fraîcheur par un habile tour de passe-passe. Le vin que vous avez là, il est issu de vieilles vignes de Carignan de 70 ans. Avec cette chaleur du sud, il devrait être assez concentré avec de la mâche. Et pourtant, on a un jus soyeux qui ne vient pas marquer le palais. Au lieu d'extraire son vin, Catherine Bernard touche le moins possible les raisins. Elle les met en cuve en grappe entière pour qu'ils fermentent au sein même de la baie. Elle ne presse pas les raisins, elle récupère juste le jus qui provient de cette fermentation, mais aussi du poids des grappes dans la cuve. Ça s'appelle le jus de goutte, et ce jus de goutte devenu vin, elle l'élève un an en foudre pour lui donner plus de sérieux. Ça donne un vin sur le fruit plus que sur la matière.
Et les prix alors de cette très belle cuvée Grenache de 70 ans de Catherine
Carignan.
Bernard Pardon, Carignan, je voulais dire Carignan, absolument.
Carignan, 70 ans, 20 euros, de quoi soutenir leur démarche.
Et ce qui est étonnant, c'est que malgré effectivement ce climat qui pourrait se comparer à celui du Maghreb, hein, on est quand même au sud-ouest de la France, dans les environs de Montpellier, il y a quand même énormément de fraîcheur dans le verre. Zazie, vous aimez ou pas ?
Je trouve ça extrêmement bon, très frais, il y a presque un petit côté mentholé, je trouve, en fin de bouche, enfin, c'est délicieux.
Avec un toucher de bouche très velouté, c'est vraiment... merci pour cette découverte,
avec plaisir.
Chère Céline. Le vin accompagne très bien la cuisine algérienne qui a du tempérament, même s'il faut évidemment respecter le régime sans alcool pratiqué par une majorité de musulmans. Une très belle assiette servie carrément dans un saladier en olivier ou en bois.
Ouais.
Oh là là.
Fabriqué à Biskra, c'est une spécialité de Biskra.
Alors Biskra, vous nous situez sur la carte d'Algérie, on est plutôt au sud, voire au port du désert.
On est au port du désert, c'est la région qui produit les dattes d'ailleurs. Et on a des plats très spécifiques de la région, donc là c'est la charchoura, ce sont des crêpes fines.
La charchoura.
La charchoura.
À ne pas confondre avec la shakshouka. Ouais.
Oui, très bonne remarque, effectivement au restaurant on m'amène ça, mais quand j'écris charchoura, je mets toujours avec un R, même si c'est KH, pour distinguer de la shakshouka, qu'on connaît plus facilement, je dirais, qui est la ratatouille à base de tomates, poivrons, oignons, compotée aux épices.
Ou on fait cuire un œuf.
Ah, ça, celle-ci, on la propose tout le temps. Ouais. Et la charchoura, on la propose une semaine par mois, parce que c'est un plat qui est extrêmement long à préparer.
Et un plat de fête, hein.
Et un plat de fête, exactement.
Il y a de la viande.
Voilà. Il y a de la viande.
Il y a des crêpes fines, hein, c'est ça que vous dites.
Des crêpes fines, très très fines.
On en revient effectivement à l'importance du blé dur.
Émietté, parce que charchoura, ça vient du mot charchar qui veut dire émietté.
Oui.
Et donc, on accompagne ça d'une sauce qui peut être rouge ou blanche. Là, c'est une sauce rouge. On a mis de l'agneau, c'est de l'agneau de lait de l'Aveyron qu'on propose au restaurant.
Ah carrément, oui. D'ailleurs, voilà. Vous avez un sourcing très scrupuleux chez Mama Nissa.
Absolument, absolument. Et donc, ça fait que la viande est très fine, fondante. On met des légumes de saison, là où on a mis des pommes de terre, des potirons.
Oh, c'est bon.
Et donc, il y a des pois chiches et il y a de la coriandre. Et c'est un plat qu'on trouve souvent chez sa grand-mère, parce que ça prend beaucoup de temps.
La charchoura de Biskra.
Et absolument.
Aux portes du désert. Quel plat, vous ? Un petit commentaire, là encore,
on sent la chaleur. Oui, il y a de la canne à
pêche, hein,
tout à fait.
Des épices,
il y a un mélange d'épices.
Il y a la salhanout, il y a le carvi, il y a la cannelle.
Sachant qu'on peut dire que les épices, pour le coup, c'est vraiment une trame gustative que l'on trouve dans toutes les régions. Hein. Les épices sont vraiment présentes.
La Méditerranée, mais plus le Maghreb, quand même.
Ah oui, et l'Algérie, là, pour le coup, le cumin, le fenouil, la cannelle.
La salhanout, le carvi.
Le curcuma, le gingembre moulu.
Le gingembre.
Dans les plats salés, dans les plats sucrés. Et d'ailleurs, en Algérie, si on schématise un peu la carte des épices et des sauces, vous allez trouver des sauces plutôt blanches, comme le disait maman, à base de cannelle dans la région d'Alger. Et aussi en Kabylie. Là, ce n'est pas en cannelle, hein, Nora, mais c'est les Berbères ayant utilisé et proposé des sauces avant même l'arrivée de la tomate des épices rouges.
En fait, c'est la paprika.
Exactement, ça, c'est arrivé plus tard.
C'est arrivé plus tard.
Dans l'ouest algérien, on va avoir des sauces plutôt jaunes, safranées, à base de safran, de curcuma, de gingembre. Donc là, c'est une spécificité. D'ailleurs, plus on se rapproche du Maroc, plus on va trouver ces couleurs. Et puis dans l'est, on est plutôt sur des sauces rouges, avec du paprika, qu'on appelle poivre rouge aussi, de la tomate, du piment qui peut être doux. Et ça, c'est intéressant aussi de voir toutes ces différentes couleurs de sauce et ces mélanges d'épices qui sont dans le sucré, mais aussi dans le salé, mais aussi dans les gâteaux.
Eh bien, transition, puisqu'on va finir en douceur, vers les desserts. Cuisine, pas forcément piquante, mais cuisine épicée, ça, on l'a compris. Et on va finir avec un dessert qui va faire date.
Ah bah tiens.
Non, mais attendez, Majouja. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez Majouja pour le dessert tradi et trendy ?
Vas-y, non. Alors, pour les desserts tradi et trendy, on a opté aujourd'hui de vous faire goûter notre fameux tamarisu, datimisu.
Datimisu, ça me fait rire.
Oui, c'est une dérive de tiramisu à laquelle on utilise la date qui est le fruit phare connu dans le Sahara algérien.
Le Deglet Nour.
On tient un petit clin d'œil pour le ramadan qui arrive là.
C'est bientôt. Le ramadan, c'est dans 15 jours.
C'est dans 15 jours, exactement. Et à laquelle j'ai adapté notre gâteau d'enfance, le bimo, à la place du boudoir. Pour couronner le tout, avec le nectar de dattes.
C'est une petite folie, ça. Tu es en train de le goûter,
voilà,
là.
Je vous laisse donner
c'est
la définition.
C'est gourmand, vous allez avoir plaisir aussi.
Ouais.
Alors,
d'Atimissou.
Ah, c'est délicieux.
Bon, c'est convaincant. On arrive malheureusement au terme de cette émission parce qu'on a aussi des macroutes et plein de choses à déguster avec vous. Et oui, il y a aussi beaucoup, beaucoup de desserts en Algérie. Je crois même que le millefeuille, là aussi, héritage des colons français, est un dessert très populaire en Algérie. Un immense merci à vous. Merci Goût d'Algérie, recettes et rencontres avec la collaboration d'Alice Princesse chez Mango Édition. On aurait aimé rester un peu plus longtemps avec vous. Mamanissa, c'est votre restaurant dans le deuxième. Majouja, c'est une autre cantine algérienne dans le 9e arrondissement. Voilà, merci beaucoup d'être venu pour nous avoir enseigné cette belle cuisine algérienne. La semaine prochaine, on vous raconte le destin passionnant et l'œuvre d'un grand écrivain gastronomique, Bria Savarin, avec notre invité Jean-Robert Pitt. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.